est souvent de mise et mène parfois à de graves incidents. Reportage à Rwampara dans un instant. Nous sommes à Kinshasa ensuite, où l'opposition fait les comptes après les violences qui ont émaillé sa manifestation vendredi. L'un des deux militants annoncés mort a finalement été retrouvé vivant. De leur côté, les autorités disent vouloir faire toute la lumière sur ces affrontements. Réaction dans ce journal de la Fédération internationale des journalistes après des poursuites contre deux journalistes comoriens. Et puis une autre réaction, celle de Mohamed Ouabi, le sélectionneur du Maroc, après le match nul un partout de ses joueurs face au Brésil. Un coach fier mais qui aurait aimé faire mieux pour ses débuts au Mondial de football. La situation sanitaire dans l'est de la RDC de nouveau à la une. Africa CDC, l'agence de l'Union africaine, l'a annoncé cette semaine. L'épidémie d'Ebola a poursuivi sa progression, notamment aux alentours de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri, épicentre de la maladie. Et sur le terrain, ceux qui font la riposte restent confrontés à plusieurs défis. L'insécurité de la région, évidemment, mais aussi la méfiance de ses habitants. De nombreux incidents sont répertoriés. C'est le cas dans la zone de santé de Rwampara, l'une des premières à avoir été touchés. Des tentes de l'ONG Alima avaient été brûlées par les proches d'un malade il y a 3 semaines. Et en début de semaine, une équipe médicale a été attaquée. Coralie Pierret s'est rendue sur place pour RFI. Reportage.
Vêtues de leur blouse de tous les jours, 3 infirmières sont occupées à faire l'inventaire du matériel médical. Dans ce centre de santé de Rwampara, c'est le calme plat. L'une d'elles explique que les malades désertent les lieux par peur d'un diagnostic Ebola.
Il y a vraiment la diminution. Même des derniers jours ici, ils ont commencé à fréquenter.
Une méfiance qui se retourne parfois contre elle.
On nous dit, c'est vous qui nous dites, c'est vous les infirmiers, c'est vous. Ça se passe toujours, à tout moment.
Cette suspicion, elle se ressent jusque dans les allées du marché de Rojo. Là-bas, une vendeuse de vêtements qui a souhaité rester anonyme vit sa toute première épidémie d'Ebola.
Il y a encore des résistances parmi la population. Le personnel soignant a fait du porte-à-porte pour sensibiliser la communauté. On nous a dit qu'en cas de symptômes, comme la diarrhée par exemple, il faut se rendre le plus tôt possible à l'hôpital.
Juste à côté de son stand, Solidarité Internationale a installé un point de lavage des mains. C'est l'un des 50 prévus par l'ONG dans la zone. Bienvenue Kamangou est le responsable des activités eau, hygiène et assainissement.
Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte, vu que c'est une pratique qui n'est pas courante dans la communauté.
Lors de la dernière grande épidémie en 2018-2020, la résistance communautaire était devenue l'un des enjeux majeurs de la riposte sanitaire. Coralie Pierret, de retour de Rwampara, RFI.
Et hier, le ministère de la Santé a revu à la hausse son bilan de l'épidémie. 710 cas confirmés pour désormais 149 décès. La RDC, où les réactions se multiplient 2 jours maintenant après les affrontements qui ont éclaté en marge d'une manifestation de la coalition d'opposition C64, réunie à Kinshasa contre le projet de réforme constitutionnelle voulu par les autorités. Plateforme qui estime que cette manœuvre viserait à offrir au président Félix Tshisekedi la possibilité de se maintenir au pouvoir après la fin de son second mandat. Le gouvernement a communiqué hier condamnant les violences survenues vendredi, évoquant des blessés aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre. Pendant que, de son côté, l'opposition poursuit le recensement de ses militants arrêtés ou blessés. RFI Kinshasa, Pascal Molégois.
Au lendemain des affrontements, les partis de l'opposition s'emploient à retrouver la trace de leurs militants interpellés lors de la manifestation de vendredi. Des cadres politiques et des avocats ont été dépêchés dans plusieurs sous-commissariats de la police de Kinshasa. Les recherches se poursuivent également auprès de certains services de renseignement où, selon les mouvements citoyens, plusieurs militants auraient été conduits. D'après une source policière, une partie importante des personnes arrêtées a été libérée samedi soir. Resteraient toutefois détenus ceux considérés comme les plus impliqués dans l'organisation de la mobilisation. Les partis de Jean-Marc Kaboun de l'Alliance pour le Changement affirment avoir recensé 189 blessés graves, 3 cas de fractures et plusieurs arrestations. Ces partis accusent le pouvoir d'avoir employé une milice pour s'attaquer aux manifestants aux côtés des policiers. Dans les hôpitaux, la plupart des blessés légers ont quitté le lieu dès vendredi. L'un des militants annoncé mort par l'opposition a finalement été retrouvé vivant, mais dans un état jugé préoccupant, selon les idées, le parti de Martin Fayoulou. Le gouvernement affirme vouloir faire toute la lumière sur ces violences. La Belgique est la première chancellerie occidentale à réagir. Son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a dénoncé les débordements violents, l'usage excessif de la force et les saccages des sièges des partis politiques, estimant que de telles pratiques n'ont pas leur place dans une démocratie. Pascal Molégois, Kinshasa, RFI.
Je précise que le gouvernement a rappelé hier son attachement aux libertés publiques et a annoncé des vérifications pour établir les circonstances exactes de ces violences. C'était en début de semaine aux Comores. Les journalistes de la Gazette des Comores, El Al-Chahid Omar et Toufé Maécha, arrêtés par les forces de police, puis placés en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Cela après des articles sur l'état de santé de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, derrière les barreaux depuis 8 ans maintenant. Les avocats de ce dernier demande sa libération justement pour raison de santé. Les deux professionnels de l'information ont certes depuis été relâchés mais restent poursuivis. Ils sont soumis à un contrôle judiciaire strict, privés de quitter l'île de la Grande Comore. Et l'un d'eux, Toufé Maécha, n'est pas autorisé à écrire durant toute la durée de l'instruction. Je vous propose d'écouter la réaction de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, qui demande l'abandon des charges. Son secrétaire général, Anthony Bélanger.
Saïd Omar et puis Toufé Maécha, ils ont toujours les charges qui pèsent sur eux, ils ont des charges assez importantes, de troubles à l'ordre public, qui ne sont pas justifiés, c'est à la suite de publications dans leurs médias respectifs et ou sur les réseaux sociaux. Hein. Cette situation préoccupante n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que c'est la méthode habituelle du gouvernement aux Comores. Ce sont des informations d'intérêt public, hein, quand ça concerne l'état de santé d'une personnalité publique, en tout cas avec des fonctions électives importantes. Ils ont fait leur travail d'informer. Et à partir de ce moment-là, on est inquiet parce que ça met la pression sur l'ensemble des journalistes. Et évidemment, il y a plein de confrères et plein de consoeurs qui me disent « Nous, maintenant, on a une pression. » C'est-à-dire qu'on a entendu dans nos rédactions qu'on va maintenant s'autocensurer pour ne pas subir le même sort que ces deux confrères. Ces procédures doivent être absolument abandonnées. Ces journalistes n'ont fait qu'exercer leur métier d'informer.
Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Il était joint par David Bachet. 8 organisations de la société civile de RDC et du Congo-Brazzaville réunies il y a quelques jours pour adresser une note de plaidoyer concernant les exportations de grumes de bois par Brazzaville, alors même qu'une loi nationale était censée les interdire. Parmi ces organisations, ACAF Congo, l'association des communautés locales et autochtones des zones forestières. L'un de ses responsables, Pérol Pertigny au Bambi Nyanga, explique les raisons qui ont poussé ces organisations à s'unir.
Ce que nous reprochons au gouvernement de la République du Congo, c'est son laxisme, puisque la République du Congo dispose d'un cadre juridique clair qui prévoit l'interdiction, notamment dans le code forestier qui interdit formellement l'exportation du bois sous forme de grumes. Et cette disposition, donc, est complétée par un autre texte qui fixe l'entrée en vigueur de cette interdiction. Donc, suivant cette note circulaire, l'interdiction d'exportation des grumes devait intervenir au 1er mars 2023. Malgré ces dispositions-là, cet engagement, nous avons constaté que certaines entreprises continuent à exporter du bois sous forme de grumes. Et les autorités ont d'abord justifié cela par des autorisations spéciales. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de pouvoir respecter leur engagement pour que l'interdiction d'exportation des grumes soit effective et que ça profite aux Congolais.
Pérol Pertigny au Bambi Nyanga, responsable des programmes chez ACAF Congo. Il était joint par Sofiane Amazian. Et puis l'actualité, c'est aussi les sports et le mondial de football. Entrée en lice d'une deuxième nation africaine cette nuit, le Maroc. Pas passé loin de venir à bout du Brésil, mais les Lions de l'Atlas ont concédé le nul un partout au MetLife Stadium de New York. Ismaël Saïbari avait pourtant ouvert la marque dès la 21e minute de jeu, mais Vinicius Junior lui a répondu peu de temps après d'un exploit personnel. Après la rencontre, les sentiments du sélectionneur marocain, Mohamed Wahbi, étaient plutôt mitigés.
Le sentiment, je ne sais pas encore vraiment l'expliquer, sincèrement. Je suis fier de ce que les joueurs ont montré, fier de comment on a répondu, fier de ce qu'on a proposé sur le terrain, fier des joueurs, très content de ce qu'ils ont montré. Mais je me dis, voilà, on aurait pu aller chercher ces victoires. Mais il faut l'accepter. Et on part avec le point du match nul et on continue à avancer. Ce n'est pas une déception. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. Et je suis assez satisfait de ça aussi, parce que quand je suis rentré au vestiaire, j'ai pas vu de l'euphorie, j'ai pas vu de chant, j'ai pas vu de joueurs danser, chanter, parce qu'on avait fait match nul contre le Brésil. Et je l'ai dit à cette conférence de presse, le Maroc était dans une autre dimension. C'est ça qu'il faut assumer aussi.
Mohamed Wahbi au micro de notre envoyé spécial Antoine Grenier. Et tous les résultats du mondial, c'est dans quelques minutes maintenant.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre dans le prochain quart d'heure, portrait des lavandières, ces femmes de la capitale malgache Antananarive, chargées de laver le linge, un métier essentiel mais très fatigant et sans protection sociale. La chronique 100% création de Maria Afonso, comme tous les dimanches. Et puis on parle sport, on continue de parler sport dans Y'a quoi sur tes réseaux. À Haïti, qui faisait son entrée en lice cette nuit au Mondial, le journal de la Coupe du Monde, c'est dans quelques minutes. Juste après les titres.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Est-ce le jour J pour l'annonce de la signature d'un accord États-Unis-Iran ? Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a indiqué sur X s'attendre à la finalisation de cet accord dans les prochaines 24 heures. Donald Trump est lui catégorique. La signature, c'est pour ce dimanche. Il promet la réouverture du détroit d'Ormuz dès la signature de l'accord. Et concernant l'uranium enrichi, il a déclaré que les États-Unis iraient le récupérer en Iran. Je cite « le moment venu ». La diplomatie iranienne a cependant de son côté évoqué un accord dans les prochains jours, mais pas dimanche, selon l'agence de presse gouvernementale IRNA. Au Liban, l'armée israélienne a indiqué samedi avoir frappé en 24 heures plus de 70 sites liés, selon elle, au Hezbollah. Les frappes israéliennes ont fait plus de 3700 morts depuis début mars, selon Beyrouth. Et puis, c'est l'anniversaire de Donald Trump. Ce dimanche, le président américain a décidé de célébrer ses 80 ans avec ce soir à la Maison Blanche, un combat de MMA dans l'octogone qu'il a fait installer spécialement pour l'occasion sur la pelouse même de la résidence présidentielle. On parle de sport tout de suite, mais de football.
Vivez sur RFI, la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Babacar Diarra.
Bonjour.
Le journal de la Coupe du Monde, Haïti battu, Haïti frustré pour leur première dans un mondial. Les Caribéens pouvaient espérer un peu plus.
L'Écosse, nation du top 40 mondial, n'a pas semblé largement supérieure. Aux Grenadiers, venus sans complexe à Boston, il n'y a eu qu'un but dans ce match, l'œuvre du milieu d'Aston Villa, John McGinn. Pour le reste, une rencontre équilibrée avec quelques lacunes techniques côté Haïti, mais surtout le sentiment d'être passé à côté de beaucoup mieux. C'est ce que disait Wilson Isidore, l'attaquant de Sunderland, au coup de sifflet final.
Je suis vraiment très déçu parce que on a montré jeu égal. Limite, on a été même sûrement meilleur qu'eux. Ça, c'est les détails du haut niveau. Ça fait mal, cette défaite, elle fait très mal. On l'a vu, il marque sur une frappe même pas cadrée. C'est vraiment dommage. Moi, je pense à tout le peuple qui nous a soutenus aujourd'hui. Ils auraient mérité beaucoup mieux que ça. C'est vraiment dommage, ça fait très mal. Et maintenant, on passe au prochain match. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis très fier de notre équipe. Je suis très fier des mecs. Ce qu'on a fait sur le terrain, ça a été magnifique. On a représenté Haïti de la meilleure des manières. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mieux représenter pour le deuxième match. Et je sais qu'on le fera.
Après cette journée, Haïti qui ferme la marche du groupe C, alors que l'Écosse en est le seul leader après une journée.
Et un avantage obtenu par la conjugaison de cette victoire donc et du nul entre le Brésil et le Maroc.
N'oublions pas que les Lions de l'Atlas, hein, demi-finalistes en 2022, étaient allés plus loin que la Seleção. Ce nouveau statut s'est vu d'entrée, avec des Brésiliens bousculés et forcés de concéder un but inscrit sur un lob d'Ismaël Saibari. Sauf qu'il a suffi d'un temps fort brésilien dans cette première période pour voir Vinicius Junior égaliser avec style. Un résultat forcément frustrant, mais surtout une première pierre dans un parcours que les Marocains espèrent au long cours. Antoine Grenier.
Même si Brésil est là, Vinicius, Rafinha, mais Maroc, il a bien joué.
Et ça a été vraiment un grand plaisir de voir ce match. Et le Maroc a fait un excellent match. Au moins, c'est 1-1, c'est bien.
Unanime, les supporters marocains à la sortie du MetLife Stadium. Le nul face au Brésil perpétue la série. Le Maroc ne gagne pas ses premiers matchs de Coupe du Monde, mais la satisfaction domine, à l'image d'Omar qui voit dans la performance des Lions de l'Atlas une promesse.
Non, mais ce qui me rend plus confiant, c'est que un des meilleurs joueurs du match pour moi, c'était Boadé qui a 18 ans, 19 ans. Donc la relève est là.
La jeunesse marocaine à l'œuvre sous les traits d'Ayoub Bouadi à 18 ans. Le Lillois a fait ses grands débuts en Coupe du Monde sans plier sous la pression, comme le reste de l'équipe, à la grande satisfaction du milieu de terrain Neil El Aïnaoui.
Il y a eu des bonnes choses dans ce match. On a joué une grande nation du football, donc non, c'est bien. Et c'est la première dans cette compétition pour la plupart d'entre nous, donc Donc c'était un premier test. Non, je pense que c'est vraiment pas le moment de s'enflammer ou quoi. Il faut rester vraiment humble. C'est ce qui a fait la force du Maroc pendant ces dernières années, l'humilité. Donc il faut rester comme ça.
Des promesses à confirmer lors de la deuxième journée face à l'Écosse. Antoine Grenien, Diacé Sambe, New York, RFI.
L'autre résultat de la soirée à mentionner, c'est le nul un partout arraché dans les arrêts de jeu par le Qatar face à la Suisse. Un match est en cours pour conclure la soirée sur la côte ouest nord-américaine. L'Australie défie la Turquie à Vancouver. Les Socceroos ont pris l'avantage grâce à leur jeune talent de 20 ans, Nestori Irankunda, joueur né en Tanzanie.
Et plus tard dans la journée, 4 matchs au programme avec le retour de la Côte d'Ivoire dans un mondial.
Les éléphants défieront l'un des outsiders annoncés, l'Équateur. Ce sera Philadelphie à 23h temps universel. Dans la foulée, les Tunisiens entreront en lice à Guadeloupe contre la Suède. Les deux autres rencontres à noter et disputées en journée en horaire nord-américain, Allemagne Curaçao à 17h temps universel et Pays-Bas Japon à 20h.
Merci Babacar Diarra, on vous retrouve tout au long de la matinée pour les journaux de la Coupe du Monde sur RFI. Comme hier, le reportage du jour à Madagascar, cette fois sur les rives de Likoup à Antananarivo, où des centaines de femmes sont chargées quotidiennement de laver le linge de la capitale dans des conditions difficiles, le dos courbé, les mains dans l'eau froide. Elles sont payées à la pièce et ne disposent d'aucune protection sociale. Aurélie Couman est allée à leur rencontre. Reportage.
Sur les rives de la rivière Likoup à Antananarivo, des dizaines de femmes sont penchées sur le linge. Elles le frottent, le battent, le rincent. Ce sont elles qui effectuent une partie de la lessive de la capitale. Parmi elles, Christine. Sueur au front, elle est à son 4e panier de linge à laver.
Je m'appelle Jean-Noël Christine, j'ai 53 ans. Mon métier, c'est lavandière. Je n'ai pas d'autre activité. Ça fait 23 ans que je fais ce métier.
La journée commence à 7h30 et finit à 17h, avec une pause à midi pour nourrir les enfants. Entre-temps, il faut aller chercher le linge dans les foyers, le porter jusqu'à la rivière. La météo rend parfois la tâche encore plus complexe.
On travaille toujours, qu'il vente ou qu'il pleuve. Le plus difficile, c'est de transporter le linge de la ville jusqu'ici quand il pleut, parce que c'est très lourd.
Le linge, c'est celui des particuliers ou des commerçants qui n'ont pas les moyens de payer une laverie. Chaque pièce est facturée entre 100 et 6000 ariars, à peine quelques centimes d'euros. Tiar, lavandière, le déplore.
Ça ne me permet pas vraiment de vivre, mais plutôt de survivre. Comme on n'a pas d'autres revenus, on ne fait que ça. Nous ne sommes pas payés ni protégés. C'est ça le problème.
Pas de couverture maladie, pas de retraite. Une journée non travaillée est une journée non payée. Sur la berge, le seul vrai filet, c'est la solidarité entre voisines de rive. À Madagascar, où plus de 80% des actifs travaillent dans l'informel, ces dos courbés de Likoup restent les invisibles de la capitale. Aurélie Couman, Antananarive, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de votre chronique « Il y a quoi sur tes réseaux ?» Cette jeune à travers le monde qui, chaque semaine, nous raconte ce à quoi ils sont confrontés quand il s'agit de scroller sur leur téléphone. Aujourd'hui, Coupe du Monde oblige, on parle football. Direction Haïti avec Lovensky, qui doit être un peu déçu ce matin après la défaite de son équipe face à l'Écosse. On vous en parlait. En tout cas, depuis la qualification des Grenadiers pour ce mondial, les vidéos déferlent sur ses réseaux sociaux. La chronique est signée Coralie Pierret.
Les Grenadiers, c'est l'équipe nationale d'Haïti. Grenadiers à l'assaut, c'est un slogan sportif. C'est le cri de ralliement pour encourager l'équipe nationale. Et les vidéos des supporters, c'est-à-dire tout le peuple d'Haïti, envahissent les réseaux sociaux de Lovensky depuis déjà des semaines.
Ça provoque un sentiment de fierté parce que la dernière fois que Haïti a pu participer dans une Coupe du Monde, c'était en 1974. Ça fait déjà 52 ans.
Sur les réseaux, chacun a son hymne.
c'était le groupe Bookman Experience, c'était un groupe musical haïtien. Ils étaient en train de tourner un clip pour envoyer de l'énergie positive à l'équipe.
Ils ne sont pas les seuls. De nombreux artistes ont fait leurs propres chansons de soutien.
En Haïti, on accorde beaucoup d'importance à la musique, à la danse. Du coup, dans tout ce qu'on fait, une fois qu'on peut mettre en avant la culture haïtienne, on le fait.
Cette grande fête musicale, elle a commencé le jour de la qualification des Haïtiens, le 18 novembre 2025, une date historique.
18 novembre, c'est la date de la guerre de l'indépendance où on a pu conquérir notre indépendance et obtenir les billets qualificatifs pour la Coupe du Monde. À cette même date-là, là encore, c'est beaucoup plus génial. Du coup, les gens sortaient. Il y a eu des groupes musicaux qui avaient envahi les rues. Quoi. Il y a ce qu'on appelle en Haïti des bandes ragas. Ce sont des troupes musicales. C'est une pratique ancestrale. Les esclaves se réunissaient afin de s'ambiancer ensemble.
Et sur TikTok, même l'équipe nationale se met à danser.
Cette vidéo-là, c'est des joueurs haïtiens en entraînement. Le plus drôle de tout ça, c'est sur une musique haïtienne. Il y a pas mal d'entre eux ne parlent pas le créole. Ils ne sont pas nés en Haïti. Il y a même d'entre eux qui n'ont jamais visité Haïti.
Et puis sur les réseaux, il y a aussi les nombreuses vidéos de pronostics, les classiques de journalistes sportifs. Et puis, il y a celles d'un genre un peu plus mystique.
Finale la fête déjà, dans le cosmos. Une équipe qui va faire belle parcours et pas les cap champions.
Ce monsieur-là disait qu'il connaît déjà l'équipe qui va remporter le mondial. Parce qu'on a été encore beaucoup au mystère, encore beaucoup au surnaturel. Il y aura ce qu'on appelle la magie.
Lovenski, lui, préfère ne pas faire de pronostics, mais rêve de voir Haïti en finale.
Contre la France.
Alors, grenadier à l'assaut. On retrouvera Lovenski bientôt, après la Coupe du Monde depuis Port-au-Prince. Y'a quoi sur tes réseaux ? Vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Coralie. Et cette chronique, vous la retrouvez sur notre site internet rfi.fr. h 53 ici à Paris le dimanche, c'est également votre rendez-vous 100% création avec Maria Afonso, qui a rencontré cette semaine l'artiste Elisabeth Garouste, qui présente sa dernière exposition intitulée Armes vagabondes. Elle conçoit des œuvres entre sculptures et meubles.
La création, c'est la liberté.
Elisabeth Garouste, artiste designer, est née à Paris dans une famille marquée par la guerre et la déportation. Son enfance est empreinte de souvenirs forts, de pertes et de résilience. Ses expériences nourrissent sa sensibilité artistique et sa vision du monde. Elisabeth Garouste apprivoise ses peurs d'enfance en se tournant vers le design. Ce qui caractérise son travail, c'est l'abondance des matériaux utilisés, bois, céramique, bronze, ou faire forger.
On peut faire quelque chose entièrement en bois ou entièrement en céramique, mais de pouvoir associer les uns avec les autres, c'est quelque chose qui enrichit. Et puis, ce qui est aussi formidable, c'est d'apprendre chaque technique. Au milieu des années 70, où j'ai commencé, c'était un esprit très rigoureux, très minimaliste. Et avec Mathia, on est revenu à l'idée de l'art décoratif, qui était très péjoratif à ce moment-là. On s'est dit, si on commençait à l'origine des barbares. Et le fait que ce soit tout à fait nouveau et sorti de ce qui se passait à cette époque, ça nous a permis d'avoir tout de suite de la presse et tout de suite, on n'en vivait pas vraiment. Là, à ce moment-là, Christian Lacroix a fait appel à nous. Et on a fait les salons de haute couture. Donc à ce moment-là, il y a eu une révélation.
Les œuvres d'Elisabeth Garouste sont souvent inspirées par la nature, avec une recherche d'équilibre entre la fonctionnalité et le rêve.
Chaque meuble, chaque objet a le nom d'une plante ou d'une fleur. C'est une sorte de rêverie et de vagabondage comme ça, à travers ce qu'on peut imaginer et retransmettre de la nature. Choses qui se sont faites à travers les siècles d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Parce qu'il faut à la fois rêver, mais à la fois être fonctionnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une table ou un buffet dans lequel vous ne pouvez rien mettre. Une table, vous ne pouvez pas poser une assiette. Donc c'est un espèce d'équilibre entre les deux. Et ce sont souvent des pièces en édition limitée, parce que justement, ça ne passe pas par l'industrie.
Découvrez tout l'univers d'Elisabeth Garouste en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Merci Maria Afonso. Il est 6h56 ici à Paris. On referme cette demi-heure, cette deuxième édition d'Afrique Matin en musique avec l'un des titres sélectionnés par nos programmateurs ce mois-ci. C'est à retrouver en playlist sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Ondas d'Omar et c'est signé Nouguenea, accompagné par Gabriel Prado. Omar, c'est signé Nouguenea et Gabriel Prado et c'est à retrouver ce mois-ci dans la playlist RFI. Allez, dans une minute maintenant, le début d'RFI Matin. On commence avec le journal. Ce sera avec Martin Guez et nous sommes en direct de New York avec notre correspondante. C'est la fête à New York. Les Knicks sont champions NBA, une première depuis 1973.
Ce dimanche, retrouvez Yasmine Chouaki
avec intégriste El Ansari, poète réalisateur Touareg, né près de Timbuktu au Mali, exilé en Mauritanie. À travers son film Ressac, une histoire Touareg et son livre Touareg, l'exil pour patrie, il raconte, transmet, archive la mémoire des nomades.
En sol majeur, avec Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.
Retrouvez RFI sur YouTube.
La Radio Mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde.
Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24h sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI.
Il est
7h.
Il est 7h.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette nouvelle émission en Gascogne, je vous propose de rencontrer Sophie Rabhi-Bouquet, qui est éducatrice, auteure, médiatrice, fondatrice du Hameau des Buis, qui était en Ardèche,